C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Aidez les autres joueurs à deviner vos secrets, mais soyez discrets. Voici ce que nous propose Dave Neal, l'auteur de Revelio, l'un des nouveaux jeux de Gigamic en ce début d'année. Alors Revelio, c'est un jeu de déduction pour 3 à 6 joueurs dans lequel chaque joueur va composer et incarner son propre personnage autour d'un métier et d'un secret qu'il détient. Alors le but du jeu est qu'au moins quelques-uns des autres joueurs découvrent la profession et le secret d'un joueur, sans qu'ils obtiennent tous la bonne réponse, un peu comme dans Dit It, car si tout le monde trouve ou bien si personne ne trouve, eh bien vous le marquez. Pas de points. Il va donc falloir bien réfléchir comment on construit son personnage. Chaque joueur reçoit une feuille pour noter les indices, des métiers et des secrets de ses personnages, avec un paravent pour se protéger des regards indiscrets des autres joueurs. Avant de commencer à jouer, vous allez pouvoir choisir 3 thèmes, avec chacun ses métiers et ses secrets. Nous avons l'ère victorienne, l'époque moderne et le médiéval fantastique. Chaque joueur va récupérer sa carte référence où sont indiqués tous les métiers et secrets. On va mélanger les 3 questions thématiques avec les questions d'ordre général. Il y a des questions standards et d'apparence. Alors chaque joueur va prendre 2 cartes métiers et 2 cartes secrets. Il en choisira une de chaque. Il indiquera sur la feuille le métier et le secret qu'il va incarner pour cette partie. Il remet les 2 autres cartes face cachée. Il sait donc forcément que les autres joueurs ne peuvent pas avoir ce métier ni le secret qu'il vient de défausser. Tous les joueurs font pareil, et ben voilà, vous êtes prêts à jouer. Mais comment on joue? Et bien l'un des joueurs va lire les questions. 5 questions au total, 2 en rapport avec l'apparence et 3 standards. À chaque question, tous les joueurs doivent y répondre en notant sur leur feuillet leur réponse. Puis, ils liront cette réponse à tous les joueurs. Ils doivent donner des indices en fonction de la question sur leur identité, soit leur métier ou leur secret. Attention, il faut donner suffisamment d'indices pour que les autres trouvent, mais pas trop non plus, car si tout le monde trouve, vous êtes démasqué et là, c'est perdu. C'est tout le sel du jeu de Revelio. Johan, qui par exemple choisit boulanger, qui ne boit pas d'alcool, et ben, s'il répond à une question qu'il fait du pain, autant dire que tout le monde va trouver son métier. Alors que s'il dit à un moment qu'il est dans la galère, qui peut être synonyme de pétrin, bah c'est plus subtil, mais peut-être un peu trop. Alors autant dire qu'il faut trouver le juste milieu. Et c'est pas si évident que ça, vous allez voir. Si votre métier est serveur et que vous dites que vous apportez une bouteille de champagne, bah vous risquez de vous faire griller. Tout dépend comment est la question. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous allez tenter de faire tomber les masques des autres joueurs. Chaque personne va relire toutes ses réponses. On prend un petit moment et il va falloir noter les chiffres pour chaque joueur correspondant au métier et au secret indiqué sur la fiche de référence que l'on pense. L'un des joueurs va être désigné pour commencer à être démasqué. Et à tour de rôle, les autres vont devoir deviner le métier et le secret. Alors s'ils ont bon, eh bien ils griffonnent une petite case grise en dessous du nom de la personne pour le métier et pour le secret. Il est possible de ne trouver qu'une chose. Le joueur désigné, lui aussi, griffonne une ou 2 cases également pour les réponses trouvées par les autres joueurs. Si personne ne trouve, il n'aura pas de points, ce qui est logique. Mais si tout le monde trouve, il a été démasqué et ne marquera aucun point. Un autre joueur va être désigné et ainsi de suite, celui qui a le plus de petites cases griffonnées remporte la partie. Alors Revelio, c'est un jeu qui saura réinventer les jeux de déduction en ajoutant de la narration et vous pouvez partir franchement dans de bons délires. Voilà, Revelio, c'est sorti chez Gigamic.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors il y a des infos ludiques qu'on aurait aimé se passer, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes passionné de jeux, vous avez vu la semaine dernière cette terrible nouvelle, le décès de l'auteur Serge Laget. Alors nos premières pensées vont bien sûr vers sa famille et son entourage, l'équipe de Greux Games, Bruno Catala, Bruno Feduti, avec qui Serge avait travaillé ou travaillait encore. Arrivant donc sur la scène ludique avec son gang des Tractions avant, en 1984, Serge s'impose comme un auteur incontournable, proposant des jeux devenus depuis des références, Les Chevaliers de la Table Ronde, Mare Nostrum ou encore Mystère à l'Abbaye ou dernièrement donc Nidavellir et ses différentes extensions. Au total, en presque 40 ans de carrière, Serge aura apporté plus d'une quinzaine de jeux et autant d'univers. Et pour tout cela, nous souhaitons lui rendre hommage ce matin sur Millennium dans C'est Ludique en rediffusant l'interview que j'avais réalisée à l'occasion de la sortie de son dernier jeu, Nidavellir. C'était le 11 mars 2020.
Tag sans écran, c'est ludique.
Alors je viens de présenter le jeu Nidavellir, un jeu de Serge Laget. Et Serge, justement, est avec nous. Bonjour Serge.
Ben bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, on va parler du jeu forcément, mais on va parler aussi de toi. Je crois que tu es enseignant, ça c'est ton métier. C'est difficile,
oui,
de faire les deux, auteur de jeu et être enseignant?
Bah, il faut pas avoir besoin de beaucoup dormir, c'est tout.
D'accord. Moi, c'est ça. Est-ce que justement, dans ton métier, tu formes, hein, je crois, des nouveaux enseignants? Est-ce que
oui.
Tu les formes aussi aux jeux de société?
Alors, tout à fait. Moi, tu sais, je suis enseignant, mais après, tu peux passer un diplôme pour être conseiller pédagogique, donc faire la formation des enseignants du premier degré.
D'accord.
Et donc, dans les formations, j'ai souvent l'occasion de présenter effectivement des jeux. Là, tu vois, cette année, j'ai fait tout sur les jeux mathématiques, donc j'ai présenté plein de jeux. Et dont un habit, dont mot, dont voilà, dont cardline, donc voilà, des jeux comme ça qui mettent en scène des notions mathématiques. Et du coup, les enseignants sont extrêmement demandeurs parce que voilà, ils sont intéressés. En même temps, ils connaissent pas forcément aujourd'hui. En plus, il y a la panoplie de jeux qu'il y a, tu vois, c'est difficile. Voilà. Donc, oui, tout à fait. J'utilise le jeu en formation, mais pas mes jeux, parce que moi, les jeux que je fais sont pas forcément à destination pédagogique, quoi.
Oh, c'est quand même mathématique. Il y a quand même de la
stratégie. Il avait l'air, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des suites mathématiques, c'est vrai. T'as raison.
Est-ce que ça serait compliqué aujourd'hui d'être auteur à plein temps?
Alors, moi, j'ai jamais fait ce choix-là, mais certains l'ont fait, comme Bruno Catala, comme Antoine Boza, ils l'ont fait avec bonheur, et ils en vivent très bien, et ils sont heureux comme ça, je pense. Moi, je l'ai pas fait parce que j'aime beaucoup mon métier, et que, voilà, pour moi, le jeu, le fait que ce soit une passion, c'est aussi, si tu veux, quelque part, entre guillemets, une sorte de confort, tu vois. Je
ouais.
travaille que sur les projets qui m'intéressent, au rythme où ça me convient.
D'accord.
Et ça reste qu'un plaisir, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
J'ai jamais de contraintes avec le jeu parce que c'est que du bonheur, quoi. C'est en plus de, voilà. Et que j'aime mon métier. Mais j'aurais pu faire ce choix, je pense, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça devient possible de vivre d'être auteur de jeux. Ça
ouais.
l'était moins quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, c'est possible. Ouais.
Et avant Nida Vélire, du coup, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas sorti de jeu?
Alors, après, moi, tu sais, je ne suis pas un boulimique du jeu. Donc je prends le temps de faire mes projets. Donc, le dernier en date, c'était le Kickstarter sur Mare Nostrum, si tu veux, et Argo aussi, qui est
ouais.
sorti dans une petite maison d'édition belge, mais très sympathique, Fat Dice Games. Donc voilà, donc mais je fais pas des jeux très très souvent. C'est vrai que souvent il s'écoule un an, deux ans, tu vois, entre deux jeux. Mais ça me va bien. C'est un rythme qui me va bien.
Est-ce que tu penses aussi que la bonne formule pour créer un jeu aujourd'hui et d'en faire son métier, c'est être collectif, un peu comme la team Kaedama?
Alors j'ai peu de jeux finalement. Il y a Mare Nostrum, Nida Vélire et Cargo Noir, trois jeux sur la quinzaine de jeux que j'ai édités que j'ai fait tout seul. Tous les autres, je les ai co-signés.
D'accord.
Donc moi, je suis un fan du travail collectif parce que voilà, ça croise les idées, ça rebondit, ça apporte. En plus, il y a plein de jeunes qui arrivent là aujourd'hui. Théo Rivière, 40 ans,
ouais.
il y a plein de jeunes qui arrivent qui sont à fond, qui ont plein d'idées, donc c'est cool. Et je pense que c'est très très bien en plus de croiser les différents auteurs, les âges, tout ce brassage me plaît beaucoup. Donc non, moi je suis à fond là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ça me paraît très bien.
Et justement, quand on parle de collectif et des jeunes, notamment comme Théo Rivière ou Corentin Lebras, c'est aussi des jeunes éditeurs qui éditent Nida Vélire, Greux Games.
Ouais.
Comment ça s'est fait cette rencontre et pourquoi tu as choisi Greux Games?
Alors, écoute, moi, je connaissais Florian parce qu'il y a des années, déjà, parce que, bon, ils sont jeunes, mais, non, je rigole, mais on se connaissait avec Florian, on avait joué autour des tables de jeux, donc on s'était revus, voilà, et bon, ils sont dans l'entourage d'Antoine Moselle, La Cafetière, tout ça, tu vois, Ludovic Beaublanc,
ouais.
tout Corentin, Théo, tout ça, ce pool de joueurs, et voilà, et un jour, je les ai fait tester, j'ai fait tester Nida Vélire, et Florian et Céline m'ont dit, ça nous plaît trop, on a envie de le faire, tout ça, est-ce que ça te tirait? Et voilà, et du coup l'idée m'a plu parce que c'est des gens qui sont passionnés, et après coup, tu vois, je j'ai aucun regret parce que finalement de travailler avec un éditeur entre guillemets qui débute, tu as la garantie que c'est quelqu'un qui va travailler à 200% sur le jeu.
Ouais.
Tu vois, ils sont passionnés, ils sont à fond. En plus, ils se battent dessus parce que c'est leur produit de l'année, tu vois.
Oui, bah oui.
Voilà, donc ils sont à 200%. Et alors que je vois d'autres éditeurs, tu vois, j'entends des fois dire des éditeurs qui ont 15 projets dans l'année, ça. Je me dis, mais tu es forcément qu'un numéro, quoi.
Enfin, oui, bah oui.
Ton jeu leur a plu, mais t'es le projet numéro 12, quoi, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc du coup, j'ai vraiment adoré travailler avec eux. En plus, c'est des gens qui sont à la fois jeunes, mais très professionnels, donc ils sont vraiment parfaits. Et en plus, on s'est entendu, tu vois, sur les choix graphiques, sur tout. Enfin, on a été vraiment en raccord sur les règles inclusives, sur la parité dans les personnages. Enfin, on avait des valeurs communes, des choses. Ouais, ça a été très facile de travailler avec eux et très, très agréable.
C'est toi qui leur as conseillé notamment l'illustrateur?
Alors, l'illustrateur, ils m'ont demandé si j'avais quelqu'un. Et j'avais travaillé déjà avec Jean-Marie Minguez sur Mare Nostrum, mais c'est quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié, là aussi pour son côté humain et puis son coup de crayon. Donc, j'ai dit, je veux bien ressolliciter Jean-Marie, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille facilement. Donc, ils m'ont dit, essaye. Et voilà, il a fait quelques croquis, ça leur a plu, et ça s'est fait, quoi.
Et combien de temps, au total, tu as travaillé sur ce jeu?
Alors c'est long, moi je suis lent, hein. J'aime bien peaufiner, mais c'est vrai que, en fait, si tu veux, Nid d'Avenir, ça part vraiment de la mécanique de jeu de mise, c'est-à-dire le coin building, ce qu'on appelait le coin building. C'est vraiment, c'est marrant, je travaille pas toujours comme ça, mais là, c'est vraiment la mécanique qui est venue en premier.
C'est l'origine du jeu.
Ouais, qui est l'origine du jeu. Et du coup, après, le jeu a eu plusieurs habillages, si tu veux, un peu différents. Donc ça, il a fallu 3 ans, en gros, si tu veux, pour que le jeu arrive de l'idée de départ du coin building à la version finale avec la constitution d'une armée de nains, tout ça. Voilà. Bon, quand j'ai vu les nains, j'ai plus eu de doute. Hein. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est un thème qui est là. Mais voilà, mais il y a eu du travail beaucoup autour de l'habillage et tout ça pour que, justement, ça soit pas trop plaqué, tu vois, que ce soit pas une mécanique, mais qu'elle soit déconnectée de notre thématique. Ouais.
Parce qu'on dit souvent que les auteurs arrivent voir les éditeurs avec leur mécanique qui est un thème, mais le thème est changé par l'éditeur. Ça n'a pas été le cas, là.
Non, ça n'a pas du tout été le cas et j'en suis ravi. Écoute, ça a été qu'une fois le cas, je crois, si mes souvenirs sont bons dans ma carrière, c'était avec Cargo Noir. Et tu vois, ça n'a pas été avec grand bonheur parce que finalement, moi j'avais fait le jeu dans l'antiquité, dans le commerce d'antiquité. Et finalement, l'éditeur a souhaité le mettre dans un jeu de truand. Et comme la mécanique est pas du tout, il n'y a pas du tout un Mac en fait, ben, finalement je pense qu'il n'y a pas eu de très bonne adéquation entre la thématique et la mécanique. Donc je pense que les procédés d'élaboration créatif qui font des allers-retours entre la mécanique et la thématique, et je pense que ça, l'un se nourrit de l'autre. Donc, je pense que c'est pas si facile que ça de changer de thématique, tu vois.
Et quand on parlait du jeu, le travail de l'éditeur est important. Là, c'est son jeu de l'année, et on voit qu'il a fait les présentoirs, il a pensé au Redlet et tout ça. C'est vraiment un super jeu, quoi. C'est un des meilleurs du début de l'année pour l'instant. Hein.
Tout à fait, c'est fignolé, et puis tu vois, tout est pensé. L'ergonomie du jeu, je pense que c'est énorme, parce qu'aujourd'hui, les gens lisent peu ou pas beaucoup les règles, ça se transmet beaucoup de façon orale ou de façon par vidéo internet, tu vois, et donc le fait que le matériel soit, comment dire, inductif, tu vois, il est très intuitif. Si tu regardes bien, il avait une fois quand t'as dit les règles, tu reposes plus de questions.
Ah oui, non.
Voilà. Le matériel est pensé pour que tout soit pratique, tout soit, tombe sous le sens, quoi. Et ça, c'est vraiment leur boulot. Ils ont fait un boulot énorme là-dessus et je leur en sais énormément gré parce que ça compte beaucoup pour la réussite du jeu.
Et le fait d'avoir fait 2 âges dans le jeu, c'est...
Pourquoi il y a 2 époques?
Ouais, ben, pourquoi il y a 2 époques?
D'abord, c'est un équilibre statistique, si tu veux. C'est-à-dire que sur les jeux de collection, tu peux avoir le risque qu'une distribution aléatoire soit... entre guillemets caractéristiques un soir et te pourrissent un peu la partie. Ouais. Tu vois, on pourrait imaginer que tous les chasseurs sortent en début de partie. Bah du coup c'est embêtant parce que ça va truquer la partie, tu vois.
Ouais.
Donc là le fait de faire 2 époques, ça permet cet équilibrage statistique en gros. Tu vois, j'ai réparti chaque catégorie de nains sur les 2 époques. Mmh. Donc il y a ça, la première raison. Deuxième raison, c'est aussi ça rythme le jeu. C'est-à-dire qu'à la fin de l'époque 1, tu as quand même le roi qui vient évaluer les troupes.
Oui.
Et voilà, et cet avantage n'est pas négligeable. Donc si tu veux, il y a un premier mini challenge à sortir de l'époque 1 avec des majorités, et du coup il y a un rebondissement, il y a un rythme qui est maintenu dans le jeu, tu vois.
Est-ce que c'est compliqué parce que sur une partie que j'ai faite notamment à 2, hein, si on sort pas bien de l'époque 1, c'est très dur de revenir.
Ah non, pas forcément, parce que si tu veux, non, on a vu plein de cas gagnés où le joueur n'a pas fait du tout la course aux récompenses,
ouais.
Et malgré tout, il s'est positionné très... Par exemple, quelqu'un qui joue beaucoup le coin building en période 1, tu vois, ça peut être une
stratégie.
Tu échanges beaucoup tes pièces en époque 1, donc tu prends pas vraiment des nains performants et ce que tu voudrais, tu construis pas vraiment ton armée. Par contre, en deuxième armée, tu arrives et là, tu as les meilleures pièces face aux autres, et donc tu prends tout la deuxième période, c'est toi qui prends tout, quoi. Donc non, c'est tout à fait jouable.
Merci pour le petit conseil.
Le jeu, et voilà. un peu de métier, quoi.
Tu reviens de Cannes, c'est un peu le baromètre du jeu. Le jeu ressort super bien, même très bien classé au niveau des ventes actuellement. Est-ce que tu t'attendais à ça avec ce jeu?
Ah, ça a été la folie. C'est vrai qu'on... Non, on ne s'attendait pas parce que, si tu veux, on n'a pas été dans les nominés. Donc, on s'est dit, est-ce que le jeu va avoir une visibilité, tu vois? Et puis, finalement, comme il y avait déjà pas mal de chroniqueurs qui en avaient parlé sur le net, y a plein de gens qui sont venus avec la curiosité de découvrir le jeu. Et du coup, j'ai même été gêné, si tu veux, parce que petit à petit, j'ai envahi l'espace de Greux avec Nid d'Avenir, tu vois. J'étais un peu gêné pour les autres jeux, les autres auteurs, tu vois. Phil, notamment, de Dany, qui est un super.
Mais oui. Ouais.
Qui est passé pendant le salon, tu vois. Bon, il m'a dit, non, il n'y a pas de souci, Serge. Il m'avait dit qu'il mettait le paquet sur Nid d'Avenir. Mais tu vois, donc on n'en a pas arrêté. En fait, j'ai pas touché terre, j'ai rien vu du salon cette année.
Ah, mais voilà. Donc t'as pas eu le temps de jouer.
On a fait jouer. Mais bon, en même temps, pour un auteur, c'est un vrai bonheur, quoi. Enfin, donc je me plains pas, tu vois, je suis ravi, mais
non, bah c'est sûr.
Mais c'est vrai que ça a été un peu fou.
D'ailleurs, puis,
on a été sold out aussi le samedi, donc tu vois, c'est pour dire que les gens étaient contents, et en plus, il y a plein de gens qui achetaient le jeu, donc c'est chouette, quoi, pour l'éditeur, c'est chouette.
Et c'est assez rare aussi qu'un auteur fasse une vidéo pour présenter son jeu.
Ben aujourd'hui, tu sais, comme je te disais, les gens aiment de moins en moins lire. Tu regardes, enfin, mais tout, hein, les appareils électroménagers, les gens lisent pas en fait les notices. Hein. Les gens, il faut que ce soit intuitif, quoi. Ils achètent l'appareil, ils essayent de le faire fonctionner, ils vont voir un peu sur Internet et voilà. Donc je pense que le fait d'avoir des explications orales en vidéo, c'est pour plein de gens, c'est un vrai canal d'explication beaucoup plus confortable que l'écrit. Après, je dis pas que je l'approuve, hein, je pense que l'écrit a son importance et que voilà, mais voilà, c'est aussi aujourd'hui, il faut savoir que c'est un canal de communication important. Donc, puis bon, moi, je suis pas très présent non plus, tu vois, dans le milieu du jeu. Donc, bon, voilà, de temps en temps, quand je sors de ma caverne,
oui.
voilà, c'est aussi un plaisir de communiquer avec les gens, tu vois, parce que voilà, dans les salons, c'est pareil, je rencontre des gens, c'est cool, enfin voilà, j'aime bien.
Et dans les jeux sortis l'année dernière, lequel t'a marqué le plus ?
Alors écoute, moi, il y a plein de bons jeux que j'ai bien aimés. Là, dernièrement, j'ai bien aimé Adara, j'ai trouvé ça très sympa, très fluide, voilà. Et en même temps, un format bien sympa, donc voilà, j'ai bien aimé. Res Arcana, j'ai bien aimé aussi Res Arcana.
Mm-hmm.
Bon, après, j'ai joué à Gloomhaven. Alors Gloomhaven, c'est bien, je peux pas en dire du mal.
Ça prend de la place, quoi.
Mais voilà, c'est vraiment... Non, mais c'est un jeu, enfin voilà, c'est pour un public averti, je pense.
Ouais.
En termes de plutôt, pas tellement de règles, hein, parce que le jeu est bien fait, mais en termes de sociabilité, c'est-à-dire qu'il faut rejouer avec les mêmes gens souvent, c'est la campagne qui est vraiment intéressante, donc c'est sur plusieurs soirées, donc voilà, il faut savoir que c'est un jeu un peu particulier, mais c'est un très bon jeu, pas de souci. Et sinon, en famille, j'ai adoré La Vallée des Vikings. Alors franchement, je trouve que c'est une réussite.
Avec les enfants, ouais,
c'est... Mais tu vois, avec les enfants, tu dis ça, mais ouais, effectivement, mais moi je m'éclate, quoi, je m'ennuie pas, tu vois.
Mais oui, oui.
Ce que j'aime bien jouer avec l'enfant, c'est que quand l'adulte s'ennuie pas, quoi, tu vois, il joue pas pour faire plaisir à son fils, quoi, en même temps, il s'éclate, quoi.
Quand tu changes le tonneau de place, là, boum.
Voilà, c'est drôle, enfin, c'est bien fait, c'est malin, en plus, la mécanique d'avancer, là, sur le ponton qui fait que tu fais scorer les autres en même temps que toi, à quel moment tu fais scorer, c'est vraiment malin, c'est drôle, enfin, c'est rapide, enfin, c'est vraiment très bien fait, j'ai adoré.
Ma dernière question, Serge, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il va falloir attendre beaucoup de temps avant un prochain jeu ?
Alors, bon, on a travaillé là sur un Chevalier 2, entre guillemets, avec Bruno Catala.
Ouais.
Donc on a fini en gros à peu près, il en reste encore un peu de boulot, mais on a fini à peu près notre travail à nous. Donc maintenant, il va falloir qu'on l'édite, mais voilà, là-dessus, ça devrait pas trop tarder.
D'accord.
Après, évidemment, pour l'instant, je croise les doigts, mais le succès d'Idavellir, évidemment, me pousse à travailler sur l'extension. Donc voilà.
Oui,
bon, forcément. Je veux pas trop en parler parce que voilà, c'est encore beaucoup trop tôt, mais c'est vrai que si le jeu continue de marcher bien, ça sera d'actualité, c'est sûr. Donc voilà, après, il y a aussi, tu sais, en ce moment, c'est beaucoup la mode de ressortir des jeux.
Ouais.
Donc voilà, et c'est vrai que moi, il y a des jeux, tu vois, d'Astra, par exemple, c'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup de regrets, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, enfin, j'estime qu'il n'a pas eu sa chance, quoi. Donc je retravaille dessus, Bruno Fiduti aussi, parce qu'on aimerait bien arriver à le refaire éditer. Je pense que ce jeu a une vraie chance d'avoir une deuxième jeunesse, entre guillemets, et ça serait chouette si c'était le cas. Donc voilà.
Et puis le monde du jeu prend de l'ampleur aussi, hein, donc c'est oui. Le moment, je pense, aussi de faire découvrir, et ça change aussi en loisir.
Le marché s'est élargi, tout à fait, c'est vrai, tu as raison.
Bah, merci beaucoup Serge d'avoir été sur Millennium, c'était un plaisir.
Bah, moi aussi, c'était un plaisir, je suis ravi, merci Mathieu, et bonne continuation aux auditeurs bretons et autres.
Merci, à bientôt. Allez, Serge,
ouais.
Au revoir. Voilà, Serge Laget, c'était ça, c'était de la simplicité, de l'humour aussi dans toutes ces réponses que vous avez pu entendre, et on voulait donc ce matin lui rendre hommage sur Millennium. Bien sûr, hein, l'émission est déjà en podcast, mais voilà, c'était important pour tous les auditeurs de découvrir Serge Laget.